fils.
Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous sommes étrangers dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais tu ne nous en as pas enlevés. Seulement, nous voulons te compter sur ta présence, marcher constamment avec toi, comme Enoch autrefois a marché avec toi. Oh, la finalité, il fut pris et il nous est dit dans le Nouveau Testament qu'il a fait. En fait, il a été enlevé. Nous voyons que c'est le secret d'être enlevé, pouvoir marcher avec toi chaque jour. Toi qui es la lumière dans notre sentier, que tu nous éclaires, que nous puissions marcher d'une manière qui te soit agréable. Seigneur notre Dieu, nous te demandons que tu répandes sur nous tes bénédictions, que tu uses de miséricorde et de grâce envers nous. Car c'est vrai, nous sommes des pécheurs. Mais par ta grâce, nous avons cette assurance que nos péchés sont effacés, qu'ils ont été jetés dans la mer de l'oubli. Sois béni. Pardonne-nous, ô Dieu, tout ce que nous avons fait qui t'a déplu. Pensez et ce que nous n'avons pas fait, que nous aurions dû. Que tu nous assistes pour cela. Père, inspire-nous ta parole ce soir. Aide-nous. Aide-nous dans la prédication. Que le Saint-Esprit vienne se saisir des paroles. Que tu nettoies avec le sang de Jésus-Christ la bouche qui parlera, ainsi que les oreilles qui écouteront. Et que tu oignes cela, Seigneur, afin que tout se fasse selon lui. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour sa gloire. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Pour l'exhortation de ce soir, nous lirons dans Jean chapitre 14, Évangile de Saint Jean. Jean 14. Les deux premiers versets. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Merveilleuse promesse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons intituler cela ce soir, Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, le Saint-Esprit pose par Paul cette question. Comment donc les gens croiront-ils ? Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Bon, tant que vous n'avez pas cru en lui, vous ne pouvez pas l'invoquer. Mais maintenant, si vous avez cru, comment croiront-ils, si vous n'avez pas encore cru, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Il faut entendre parler de lui. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, pour l'invoquer, il faut croire en lui. Pour croire, il faut d'abord en entendre parler. Pour en entendre parler, il faut un prédicateur. Il faut une prédication par le Saint-Esprit. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il faut que des prédicateurs soient envoyés. Selon qu'il est écrit, qu'il est beau, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, c'est l'évangile que, comme nous venons de le chanter, consoler, consoler. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, n'est-ce pas? L'iniquité a été réparée. Le péché a été pardonné. C'est la bonne nouvelle. Et notre bonne nouvelle, c'est qu'il s'en va nous préparer une place afin que là où il est, nous soyons également avec lui. Alors, verset 16, il nous dit ce qui est cette remarque désolante, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. On a parlé de l'obéissance il n'y a pas longtemps. Aussi, Esaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Nous avons vu que la foi et la foi et l'obéissance sont sœurs. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut avoir entendu. Si on n'a pas entendu, on n'y est pas. Les promesses qui sont dedans, il faut pour obtenir les promesses, il faut la foi, n'est-ce pas? C'est comme ça que les vaillants soldats de la croix d'autrefois, n'est-ce pas? Les vaillants soldats d'autrefois, ils ont vaincu par la foi, ils ont obtenu des promesses par la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 32, hein, que dirais-je encore? Ben, on va voir Abraham, il est sorti, obéi et parti, et ainsi tous les autres, mais on va commencer au verset 32. Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes. Ils ont vaincu des royaumes par la foi, exercèrent la justice par la foi, obtinrent des promesses. Amen. Les promesses sont à vous, pour autant que vous y croyez. Et il y a un Saint-Esprit qui a été promis. Et dans Actes, chapitre 19, nous voyons des chrétiens qui, alors que le Saint-Esprit était donné, qui s'assemblaient. Il y avait quelqu'un là, Apollos, qui était bien versé dans les Écritures, mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et en rencontrant quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Normalement, c'est après que vous ayez cru. Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il faut en entendre parler. Amen. Le Saint-Esprit, il faut le prêcher. Il faut prêcher cette promesse. C'est-à-dire que la promesse est à vous. Tant que vous ne savez pas que cette promesse-là est là, elle est pour vous, ben, vous ne demanderez jamais pour l'avoir. Or, Jésus dit, le Père le donne à ceux qui le lui demandent. Hein, dans Luc chapitre 11. Pour le demander, il faut savoir, il faut en avoir entendu parler. C'est pourquoi il ne faut pas négliger d'écouter l'Évangile, d'écouter la bonne nouvelle. Parce que c'est dans cette bonne nouvelle que se trouvent renfermées, n'est-ce pas, toutes les promesses. Même chose pour le nom. Dans l'épître de Jean, la première, chapitre 5, il nous dit ceci. Jean, chapitre 5. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et il faut l'entendre. C'est ainsi qu'il nous est Exhortez, n'abandonnez pas vos assemblées. Il nous dit ceci au verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. La question reste posée. Comment croirait-on si on n'en a pas entendu parler? Il faut prêcher ce Fils de Dieu. Amen. Et non pas quelqu'un d'autre. Nous avons cette obligation de prêcher le Fils de Dieu. Il ne faut pas venir, comment dirais-je, cogner dans les oreilles des gens d'un nom, fut-il grand ou fut-il le nom d'un prophète. Ce qui nous intéresse, c'est de parler du Fils de Dieu. Parce que ce qui est important, c'est de croire au Fils de Dieu. Il y a quelqu'un à qui parlait le gouverneur, là, Paul. À qui parlait Paul? Paul lui pose la question, crois-tu au prophète? Mais c'était un incrédule. Croire à un prophète, c'est bien, mais ce n'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de croire au Fils de Dieu. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Il faut croire ça. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Dans Actes chapitre 28, pour dire, c'est que... Je crois que c'est 28... ou 26. Agrippa, ou 25, c'est plutôt Festus qui pose la question. Bien. Ben, ça sent bien venu ici, je n'ai pas noté. Il dit, bon, je vous le trouverai, mais il lui pose carrément la question, crois-tu au prophète? Et le monsieur, il dit oui. Paul a répondu à sa place. Il dit, je sais que tu y crois. 26-27. Oui, c'est ça. Crois-tu au prophète, au roi Agrippa? C'était Agrippa qui posait la question. Paul répond, il dit, je sais que tu y crois. Et Agrippa, il n'y croyait pas. Il ne croyait pas au Fils de Dieu. Il dit, il n'avait pas la foi. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Agrippa, il croyait au prophète, mais ce n'est pas suffisant, croire au prophète. Ce n'est pas le but. On ne va pas venir vous rabattre les oreilles. Branham, Branham, Branham. Nous sommes heureux que Dieu nous ait envoyé un prophète. Nous sommes privilégiés, mais ce prophète avait comme mission de nous montrer justement ce Fils de Dieu, en fait, qui était Dieu incarné dans la chair, qui a marché avec nous. Et c'est ça que nous devons suivre. Ce n'est pas dans une prédication, il ne s'agit pas de venir parler de Branham, Branham, Branham ici. Il s'agit de parler de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que la foi en Jésus, puisqu'il dit, croyez en moi. Et c'est ça qui est important, croire en lui. Croire en Dieu, sachant que Dieu était en lui. Dans la mesure où l'ange dit que, il dit à Marie, le fils qui viendra devra s'appeler Emmanuel. Et il explique, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il dit... je sais que tu y crois, et Agrippa va dire, il dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Vous voyez, il ne l'était pas. Donc quand quelqu'un croit au prophète, il n'est pas encore chrétien. Alors, maintenant, croire ou non du Fils de Dieu. C'est ce qu'il dit dans, c'est ce qu'on vient de lire dans 1 Jean 5, n'est-ce pas? Il faut croire au nom du Fils de Dieu. C'est ça, la vie éternelle. Verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Croire en son nom est très important. Ça veut dire quoi, croire en son nom? Il s'appelle comment? L'ange dit, il s'appelle Emmanuel. C'est Dieu avec nous. Amen. Il s'appelle Jésus. Jésus, c'est Jéhovah Sauveur. Et nous devons savoir que c'est lui notre Sauveur. C'est lui qui nous sauvera de nos péchés. Amen. Jésus le Christ, c'est lui le Oint, le prophète que nous attendons, le Fils de l'homme. Donc son nom, d'ailleurs chaque nom dans l'Ancien Testament avait un but, il y avait un message derrière chaque nom. Et c'est comme cela, quand Dieu donne des noms, c'est pour dire exactement quelque chose au travers de ce nom. D'ailleurs, le frère Abraham dit ceci, que certains noms vont vous influencer dans votre vie. Le nom que vous avez peut vous influencer dans votre vie. Si vous avez un nom de consonance voyou, ben vous risquez d'être voyou. Vous voyez? Donc, il faut bien savoir, lorsque vous donnez des noms aux enfants, bien savoir quel nom donner. Et quand le nom dit quelque chose de pas bon, changez-le. Amen. Et croire au nom du Fils de Dieu, donc, apporte la vie éternelle. Et c'est important, surtout dans nos besoins. Ça a guéri un infirme né, le fait de croire au nom, d'avoir la foi au nom de Jésus-Christ. Acte 3. Il dit, verset 12, après que l'homme, l'infirme, ait été guéri, les gens sont venus, ils étaient étonnés de voir ça. Alors Pierre dit ceci au verset 12, Pierre voyant cela dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? On passe, verset 16, c'est par la foi en son nom, au nom du juste. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Quel est le nom qui a été invoqué? C'est un nom qui leur a été donné. Amen. Puisque dans Jean 17, Jésus dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et ce nom-là a été donné, c'est comme il nous est dit dans Acte 12, c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, n'est-ce pas? Il n'y a pas sous le ciel, pardon, d'autres noms. Enfin, décidément, aujourd'hui. C'est acte 4, pardon. Oui, c'est ça. Verset 12. Oui, pour ça j'ai dit 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et cet homme a été guéri. Comment cela? Pierre a juste dit à cet homme, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a bien dit Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, le oint de Nazareth. Il peut y avoir beaucoup de Jésus, mais il s'agit de Jésus, le oint, le Christ, le Messie de Nazareth. C'est de celui-là qu'il s'agit. Parce que Paul dit, ça peut arriver qu'il y ait d'autres Jésus. Maintenant, si on vous amène un autre Jésus, ne le recevez pas. C'était désolant, les Corinthiens avaient un peu tendance à recevoir un autre Jésus, alors que le véritable a été prêché. Le nom qu'ils ont invoqué, donc au verset 4, au chapitre 3 des Actes, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. La foi en ce nom, c'est un riche trésor. On l'a chanté ici tout à l'heure. C'est vrai que c'est un riche trésor. Croire ce que Dieu dit. Mais seulement pour croire, pour avoir foi en ce nom, croire que ce nom peut relever ce monsieur, ben pour le croire, il a d'abord fallu entendre parler qu'au nom de Jésus-Christ, les infirmes peuvent marcher. Il a fallu d'abord que cela soit prêché. Tant que cela n'est pas prêché, les gens ne sauront pas. C'est pourquoi la guérison divine, si un prédicateur se retrouve devant une audience, il ne devrait pas avoir peur de prêcher, de dire que Dieu guérit. Dites amen à ça. Il ne doit pas avoir peur. Parce que parfois, on peut avoir peur de cela, parce que si quelqu'un se lève et vient vous trouver, vous demander de prier pour lui pour qu'il soit guéri, il y en a qui ont peur qu'on les aborde pour cela. Personnellement, je n'ai pas à avoir peur de cela. Pourquoi ? Parce que je ne vous dirai jamais que c'est moi qui guéris. Mais je vous dirai que c'est Dieu qui guérit. Amen. Je vous dirai que c'est au nom de Jésus-Christ que vous êtes guéri. C'est lui qui fait de sorte qu'il vous apporte cette guérison. Ce n'est pas moi. Moi, ma tâche, mon devoir, c'est juste vous informer, vous dire que Christ y guérit. Jésus-Christ guérit, et lui-même l'a dit dans Marc 16, je n'ai pas inventé, il a dit en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toujours la foi, Marc 16. Alors, beaucoup d'églises aujourd'hui n'osent pas prêcher la guérison divine. Parce que Satan... il viendra défier. Qui viennent défier, vous êtes certain de cette parole. Amen. Vous la portez, vous témoignez, parce que nous savons que Dieu fait de grandes choses. Il nous a montré qu'il est Dieu. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons cette conviction qu'il est Dieu. Il nous l'a montré dans notre vie. Il nous a parlé, nous avons vu qu'il est Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas grave. Tant qu'on ne comprend pas, lui-même nous expliquera cela. Il dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu comprendras plus tard. Un jour, si Dieu le veut, un jour, je comprendrai. Il faut toujours partir dans ce principe-là. Quand je lisais avant, croire au nom de... au nom du Seigneur, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire. Mais à un moment donné, il y a l'étincelle qui vient. Un jour que Dieu lui-même aura décidé. L'étincelle est là, c'est donc ce que Dieu a voulu dire. Amen. Ça veut dire que la personne qui porte le nom fait exactement ce que le nom dit qu'il doit faire. Allez par verset 15, Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, pour croire, il faut d'abord entendre. Dites amen à ça. Toujours, C'est toujours le même schéma. Il faut d'abord en entendre parler. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, mais comment croiront-ils si cela n'a pas été annoncé? Eh bien, si on n'en a pas parlé, et comment parlerait-on si on n'a pas de prédicateur? Et ce n'est pas n'importe qui doit apporter cette bonne nouvelle. Il faut que ça soit quelqu'un que Dieu a envoyé, comme nous venons de lire dans Romains 10. Voici les miracles donc qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Donc, pour avoir foi en ce nom, Jésus-Christ de Nazareth, il leur a fallu d'abord en entendre parler. Effectivement, dans Jean 17, le Seigneur dit qu'il leur en a parlé, il leur a donné le nom, il leur a fait connaître le nom. Ils y ont cru et ils l'ont invoqué. Et justement, Pierre dit, c'est par la foi en ce nom que cet homme est guéri. Ce nom-là, lorsque vous dites que c'est au nom de Jésus-Christ, ça vous ouvre toutes les portes de la guérison, les portes de la délivrance, les portes du salut. C'est pourquoi nous voulons faire dans l'Assemblée, dans l'Église aujourd'hui, c'est le but du message du temps de la fin, c'est de nous ramener à la foi de l'Église primitive, à la foi des apôtres. Or, les apôtres, ils ont entendu, ils ont cru, comme Pierre dit, nous avons cru et nous t'avons suivi. Amen. Et nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est dans Jean 6 qui dit cela. Alors, dans l'Église primitive, Paul aussi, quand il est venu plus tard, Paul aussi prêchait, il prêchait Jésus-Christ. Mais on va y arriver. Donc nous voulons faire comme les envoyés d'autrefois, ceux de l'Église primitive, les prédicateurs de l'Église primitive, parce que nous voyons que lorsqu'ils prêchaient, le Saint-Esprit venait, se répandait sur les gens. Pourquoi cela ne se fait-il pas aujourd'hui? Je lisais un livre, un frère qui avait écrit, il n'est pas très connu ce frère-là, mais il dit, pourquoi est-ce que quand on voit l'Église de la Pentecôte, comment ils ont mis le monde, ils ont secoué le monde sans dessus-dessous, pourquoi est-ce que l'Église d'aujourd'hui ne le fait-elle pas? Tout simplement, il donne la réponse, il dit, c'est par manque de la Pentecôte. C'est une question de la Pentecôte, c'est la Pentecôte qui manque. Mais comme on le chante, si nous pouvons vivre cette Pentecôte dans cette assemblée aujourd'hui, c'est aujourd'hui encore le jour où Dieu donne le Saint-Esprit. Et effectivement, c'est là où nous devons en arriver. C'est le but du message du temps de la fin, pour venir nous dire, en fait, l'Église, les miracles, les choses qui se passaient, les opérations du Saint-Esprit d'autrefois, le temps n'est pas fini. Aujourd'hui encore, Dieu le fait. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les mêmes miracles qui se faisaient autrefois, cela peut se faire aujourd'hui. Des gens être sauvés, non pas avoir des chrétiens juste guindés, formalistes, respectant un horaire particulier, mercredi soir, vendredi soir à l'Assemblée, le dimanche matin, et puis après ils rentrent, et puis ça recommence, ça devient une routine. Non, c'est une vie. Demain, si je suis toujours vivant, je ne sais pas quel geste je ferai demain, n'est-ce pas? Mais ce seront des gestes nouveaux. Je ne vais pas vivre la même chose que j'ai vécu aujourd'hui. Demain, ce sera différent. Et ça doit quand même, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, ça doit être différent. Il n'y a pas que ces trois jours-là. Il y a le lundi, le mardi, le mercredi. Ça doit être différent. Et chaque fois, vivre sous l'influence, sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, les églises aujourd'hui devraient un peu plus prêcher Jésus. c'est-à-dire faire connaître Jésus-Christ, et non pas venir se prêcher soi-même, où des prédicateurs viennent, ils donnent le témoignage d'eux-mêmes. Que Dieu soit béni pour ton témoignage, mais parle-moi de Jésus-Christ. Amen. Si je viens vous dire ici, je viens vous raconter ici pendant 30 minutes, 3 quarts d'heure, eh bien, j'ai veillé, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, et telle chose s'est produite, et puis lundi, j'ai fait ça, mardi, je l'ai fait, j'ai fait autre chose, j'ai jeûné. Je suis en train de vous parler de moi. Quand vous allez rentrer, vous allez vouloir faire comme moi, j'ai fait, j'ai jeûné, j'ai... Non, il faut entendre. Ce n'est pas le jeûne qui guérit la personne, c'est la foi. Amen. C'est la foi. Il faut avoir la foi. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Si vous êtes poussé à jeûner, jeûnez. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas parce que vous avez jeûné 40 jours que les choses vont se passer. Mais quand vous jeûnez, croyez au moins au jeûne que vous faites. À quoi ? Pourquoi vous jeûnez ? Je connais un pharisien qui jeûnait quasiment, je ne sais plus combien de fois par semaine, mais il n'a jamais été justifié. Ah. Alors, ces prédicateurs-là, ceux d'autrefois, ils prêchaient Jésus-Christ. Paul dit dans 2 Corinthiens 11. Il ne faut pas aller dans les églises, rabattre les gens des oreilles. Dieu nous a envoyé un prophète, mais il n'y a pas que ce prophète-là. Ésaïe, c'est aussi un prophète qui a été envoyé. Jérémie, c'est aussi un prophète qui a été envoyé. Et les choses que Ésaïe a écrites, il y a des choses qui concernent cet âge-ci. 2 Corinthiens 11. Et en faire un prophète plus grand que les autres. C'est un prophète comme les autres. Que Dieu soit béni pour cela. Un seul, Jésus-Christ a dit, il n'en a pas paru plus grand que lui, c'est Jean-Baptiste. Les autres, Dieu seul sait. Et les pharisiens, enfin les juifs, ils parlaient souvent de Moïse. Mais avoir foi en Jésus-Christ, ils ne l'ont pas eu. Jusqu'aujourd'hui, ils l'attendent encore. Parce que tout en parlant de Moïse. Et ce que Moïse a dit était juste. Ce qu'ils disent de Moïse, c'est juste. Mais ils n'ont pas la foi qui sauve. 2 Corinthiens 11. On peut commencer au verset premier. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, non. Il faut suivre le Jésus qu'eux, ils ont prêché. Parce qu'eux, ils sont des envoyés que Dieu a envoyés. Un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, il n'y a pas que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Non. Paul dit non, ce n'est pas ça que nous prêchons. Il a déjà dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er, il dit au verset 22, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Pas n'importe quel Christ, celui qui est mort à Golgotha, c'est lui que nous prêchons. Parce que d'autres peuvent être des Christ, vous pouvez en être, hein, des messiettes comme dit le frère, vous pouvez être des oints. Ok, mais celui qui a été crucifié à Golgotha, c'est lui qui est prêché. On ne prêche pas les oints qui sont ici, ou même ici derrière la chair, mais on prêche celui qui a été crucifié à Golgotha. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Paul a aussi prêché que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, quand il a prêché cela, vous voyez le parcours de Paul. Voyez comment il était conduit par l'Esprit. Voyez comment Dieu a agi puissamment au travers de lui. Dans Actes 9, il dit ceci. Et pour cela, il a fallu d'abord que Dieu lui ouvre les yeux. Verset 18. On peut commencer au verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, il était complètement aveugle, il ne voyait pas. Hein. » Après la lumière, quand la lumière l'a frappé dans les yeux, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus. » Amen. Ananias ne parle pas d'autre chose que de Jésus, de quelqu'un d'autre. « Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » C'est peut-être la première fois que Paul entend parler du Saint-Esprit. Mais il en a entendu parler. Alors, comme Ananias, il dit qu'il a été envoyé, comme il était envoyé, ça a de l'effet. Quand le prédicateur n'est pas envoyé, ça n'aura pas d'effet. Alors, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. C'était ce qu'il prêchait. Et Dieu a accompagné ses prédications de prodiges et de miracles. Amen. Et c'est valable pour tout ce qui nous attend, pour tout ce que nous recherchons. Nous voulons, comme Paul, nous désirons être de la première résurrection. Nous voulons être de cette résurrection-là. Hein, comme il le dit dans Philippiens. Philippiens 3. Verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Maintenant, il le connaît. Pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. » Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il avait entendu parler de la résurrection. D'ailleurs, dans les Actes, il va arriver dans un endroit où il va leur prêcher de la résurrection. Les gens vont partir. Écoute, pour ça, nous reviendrons une autre fois. Mais c'est la réalité. Alors, pour que nous sachions qu'il y a une résurrection, pour croire qu'il y a une résurrection, d'abord, pour faire partie de la résurrection, il faut d'abord croire en cette résurrection. Que si vous devez vous coucher aujourd'hui pour le compte, vous devez croire que Dieu vous ressuscitera. Vous devez croire en cela. Si vous n'y croyez pas, vous ne ressusciterez pas. À moins que vous attendez, sauf quand vous attendrez le jugement là, qu'on le veuille ou non, il nous ressuscitera et il fera ce qu'il a dit qu'il fera. 1 Corinthiens 15, il parle de la résurrection. Il dit ceci, il parle de sa prédication. 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Il a prêché ça. Et nous devons prêcher ça. Il ne faut pas avoir honte de dire que Christ est ressuscité. Si la personne n'y croit pas, il n'y croit pas. C'est son affaire. Mais Nous prêchons que Christ est ressuscité. Nous le croyons. Il se trouve donc, notre si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, la parole de Christ. Amen. Il faut donc des prédicateurs envoyés par Dieu qui prêchent la résurrection, qui expérimentent un Christ ressuscité dans la puissance de sa résurrection. Il faut qu'ils l'apportent avec beaucoup de conviction et non pas en baissant la voix, baissant de voix, en disant « Non, qu'il y a un aveugle là devant moi ou de moi, je lui dirai, le Christ viendra, il est venu pour rendre la vue aux aveugles. Maintenant, s'il y croit, gloire à Dieu. S'il y croit, par sa foi, il peut recouvrer la vue. Moi, je vais même enlever le peu, il recouvrera la vue. Il suffit, s'il y croit, comme Bartimée a cru dur comme fer, ben, il a reçu ce don à laquelle il croyait. Ouais, il a reçu sa vue. Alors, il faut que les prédicateurs, comme nous disons ici, apportent l'ancien évangile. Cet ancien évangile qui nous parle de la résurrection. Cet ancien évangile qui nous parle de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Et des croyants, n'est-ce pas? Ceux qui sont prêts à croire à ces choses bizarres, à ces choses à l'ancienne mode, croire comme des enfants. Donc, mais ils doivent entendre la prédication. Ça doit vraiment leur donner cette envie d'entendre. Pas toujours de rester là à chercher à lire. Lire, c'est bien, mais Dieu veut. Vous savez, les croyants d'autrefois, ils n'avaient pas de lecture comme ça à portée de la main, comme vous et moi. Mais ils traitaient avec Dieu. Mais par la foi, ils ont fait de grandes choses. Ils en ont entendu parler. Jacob a entendu parler du Dieu de son père. Isaac avait entendu aussi parler du Dieu de son père. Abraham, il a entendu Dieu lui parler. Et Dieu lui a montré. Comme ça, directement, il entend ça. Il ne s'est pas dit, c'est peut-être juste une pensée comme ça. Non, il a obéi, il a tout abandonné, il est parti. Ça, c'est faire confiance à Dieu. Il a vécu là, l'endroit d'où il est parti, il y avait vécu toute sa vie. Il avait jusqu'à ses 75 ans. Et il a vécu là. Et puis, Dieu vient lui parler. Je ne sais pas comment il lui a parlé, par inspiration, je ne sais pas. Il lui fait confiance, il se lève, il prend sa femme de 65 ans. Allez, allons-y. Il a même pris son père avec lui. Et son neveu. Amen. Votre salut, la foi qui sauve, il faut d'abord entendre parler du salut. S'il n'y a personne pour vous prêcher le salut, ben, vous ne saurez pas qu'il y a un salut. Amen. C'est ça. Il faut qu'un envoyé vienne, un envoyé de Dieu vienne vous prêcher sur le salut. Et que lui-même ait expérimenté que Dieu est réellement sauveur. Dans Marc 5. Vous savez, c'est quelque chose qui me venait tout le temps. Où est-ce que dans la Bible, il dit quelqu'un a entendu parler de ce Jésus? C'est le frère qui était là hier, m'a donné le passage. Effectivement, après avoir entendu parler de lui, elle a eu la foi, cette dame. cette femme. Elle a entendu parler de lui. En Marc 5, 24, Jésus s'en alla avec lui, avec Jairus, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Quelque chose au-dedans d'elle lui a certainement dit qu'il y avait toujours encore une espérance. Les médecins ont tout essayé, ça découragerait beaucoup de gens. Mais ceux qui sont destinés à croire, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, ce sont des gens qui ont toujours cette folle espérance en eux. Même quand il faut enterrer quelqu'un, cette espérance demeure, l'espérance de la résurrection. Nous savons que ce n'est pas fini. Nous avons cette espérance. Et en Marc 5, 27, donc, ayant entendu parler de Jésus, elle a entendu parler de lui. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, rien que sur base de ce qu'elle a entendu parler, elle dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. C'était une conviction chez elle. Et ça doit être une conviction chez vous. Ça doit être une conviction chez moi. Le prédicateur doit être convaincu, sinon il va semer le doute chez les gens. Les auditeurs doivent être convaincus. Non pas parce qu'ils aiment bien le prédicateur, mais parce que la parole est vraie. Ça n'a rien à voir avec votre relation avec le prédicateur. Ça a à voir avec le Saint-Esprit qui agit sur la parole. Maintenant, ce Saint-Esprit qui est promis. Nous avons vu dans Acte 19, Apollos et les autres à Éphèse, ils n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Bien qu'ils prêchaient des choses plus ou moins justes, je crois qu'ils prêchaient plus dans l'Ancien Testament, mais ils ne comprenaient pas les promesses du Saint-Esprit. Pourtant, il y en a aussi dans l'Ancien Testament, des promesses du Saint-Esprit, Joël et tout cela. Mais eux, ils disent, on n'en a jamais entendu parler. Et comme ils n'en ont jamais entendu parler, eh bien, ils ne l'ont jamais reçu. Puisqu'ils n'avaient pas la foi qu'ils allaient le recevoir. Ils ne l'ont pas reçu jusqu'à ce que Paul leur en parle. Quand Paul leur en a parlé, ils l'ont reçu. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et d'ailleurs, Paul dit toujours aux Éphésiens, d'ailleurs c'est surtout à eux, Éphésiens, chapitre 1er. Verset 11. En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alors, il dit aux Éphésiens, là où il y avait Apollos, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. C'est très important d'entendre la parole. Et pas n'importe quelle parole, la parole de Christ. Et c'est quoi la parole de la vérité? L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Si vous n'en entendez pas parler, vous ne l'aurez jamais. Ou bien, il y a des églises qui ne prêchent pas ça, qui vous disent que le Saint-Esprit, c'était pour les apôtres, c'était pour les temps anciens. Non, le Saint-Esprit, c'est pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Tant que Dieu appelle encore aujourd'hui, le Saint-Esprit est accordé. Si c'est Dieu qui vous a appelé, vous avez droit. Alors si vous y avez droit, demandez-le, cherchez-le. C'est là que se trouvent toutes les promesses divines. Souvent, c'est la lettre, mais l'esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vivifie. Et nous ne devons pas nous relâcher. Jésus nous a appris à demander, à finir par là. Et nous finirons, bien sûr, si nous demandons de manière sincère, il nous le donnera. Et quand nous le demandons, nous devons savoir une chose. Le Saint-Esprit, quand il descend, quand il est descendu sur le Seigneur, il est descendu, il est resté. Amen. Ça veut dire que il descendait sur beaucoup de gens. Parce que il a été dit à Jean-Baptiste, quand il était dans le désert, il a été dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe et demeurer. Amen. Ça veut dire qu'il y en a qui se présentaient, l'Esprit descendait, et hop, l'Esprit repartait. Pourquoi? Il y avait des problèmes en lui qui attristaient le Saint-Esprit. D'ailleurs, aux Éphésiens, Paul dit, ne l'attristez pas. Et dans beaucoup d'églises, on a un peu tendance à l'attrister. C'est pourquoi dans les églises, il n'y a pas. C'est à cause de ces choses que l'on considère comme petites. Hein? Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le frère dit, d'ailleurs, il est très timide, le Saint-Esprit. S'il vient trouver chez moi, en moi quelqu'un de colérique ou quelqu'un d'hypocrite ou quelque chose comme ça, il va s'en aller. Alors, si je me mets à demander ce Saint-Esprit, l'hypocrisie qui est en moi, Dieu doit d'abord l'enlever. Et lui sait comment enlever. Dans Éphésiens 4, verset 30, il dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On a voulu qu'il soit là au milieu de nous ce soir, ce Saint-Esprit promis. Mais si nous venons, nous entrons ici, que toute amertume avec amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alors là, il est content, il va venir et il va rester parmi nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Quand on a dit ici la fois passée, hein, le diable, il vous laissera aller à l'assemblée, autant de, comme vous voudrez. Mais c'est qu'il vous dira, mais ne pardonne jamais à Jones, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il y a un Saint-Esprit promis, nous le voulons, parce que pour pouvoir vivre cette parole, il nous le faut. Et Dieu le savait, Dieu savait qu'il nous le fallait. C'est pourquoi il nous l'a promis. C'est promis pour vous, c'est promis pour moi. Nos réunions sont censées être des réunions conduites par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, vous savez, quand chaque fois que la parole sera apportée, ce sera « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous ?» Si quelqu'un doit venir prêcher ici, qu'il prêche par le Saint-Esprit. Si quelqu'un veut venir écouter, que le Saint-Esprit l'aide à écouter. Que le Saint-Esprit l'aide à entendre les glorieuses choses qui sont promises. Toutes les promesses qui sont là, pour que vous puissiez en bénéficier, il faut en entendre parler. Amen. Et Dieu qui connaît vos besoins, n'est-ce pas? Une prédication du Saint-Esprit fera ressortir les choses, vous fera connaître les choses qui sont en vous, qui bloquent le Saint-Esprit dans une prédication. L'un, ce sera les calomnies, l'autre, les clameurs, l'autre, l'animosité. Eh bien, le Saint-Esprit, lorsque ce sera lu, le Saint-Esprit va manifester, va le lui montrer, et la personne qui le veut vraiment va dire, « Oh Seigneur, enlève-moi cela. » Et Dieu entend votre prière. Et Dieu exécutera sa promesse. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. L'esprit sonde tout. Et c'est un esprit qui crie Abba Père. Il vous rend ce témoignage que Dieu est votre Père. Imaginez comment vous alliez chez votre Père terrestre, votre Papa terrestre. Et bien, le Saint-Esprit il vient. Ce n'est pas un esprit de timidité, a dit Paul à Timothée. Mais c'est un esprit qui crie Abba Père. Lorsque vous avez un besoin, vous êtes là, Père, j'ai tel besoin. Si vous avez besoin de guérison, Père, j'ai besoin de guérison. De délivrance, Père, j'ai besoin d'être délivré. J'ai besoin d'être délivré de telle habitude. J'ai besoin d'être délivré de tel lien. Et votre prière sera, le Saint-Esprit sait de quoi nous avons besoin. Et cela sera fait par des soupirs inexprimables qui feront que nos prières seront agréables à Dieu. Nous demanderons des choses qui lui sont agréables. Nous te remercions pour cette promesse, Seigneur. Nous te remercions aussi pour tout cela, pour cette grâce merveilleuse que tu nous fais, de répandre sur nous, ô Dieu, ainsi que tu l'as promis depuis les temps anciens, depuis Joël, depuis tout ce temps-là où tu disais, des fleuves d'eau vive, viendront dans cette femme samaritaine également. Lorsqu'elle est venue là, elle avait entendu parler du Messie. Et le Messie est venu justement, il était prêt à lui donner cette eau vive, à faire couler cette eau vive de son sein, Dieu, jusque dans la vie éternelle. Alors, le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même est venu et lui a révélé où était le problème. Pourquoi ces eaux vives, pourquoi elle avait toujours soif, ces eaux vives ne jaillissaient pas d'elle. Il lui a dit, va appeler ton mari. Je n'ai pas d'âme, tu as dit vrai. Ce qui bloquait justement, Dieu, que ces eaux vives coulent, proviennent d'elle, c'était justement cela. Comme tu l'as fait avec elle, tu le feras certainement avec chacun d'entre nous ici ce soir. C'est cela notre prière. Accorde-nous ce privilège ce soir. Viens, Seigneur. Viens et accomplis ta promesse au-dedans de nous. S'il y a des choses qui bloquent, enlève cela de nous. Enlève l'hypocrisie. Enlève la convoitise. Enlève la médisance. Enlève la calomnie. Enlève ces choses. Aide-nous. Si elles sont en nous, Dieu, nous te prions, toi, Dieu, qui as le sang béni, toi qui délivres, Dieu, nous te demandons de nous enlever toutes ces choses et que nous soyons complètement nettoyés et que tu viennes trouver ta demeure. Que Christ vive en nous, au-dedans de nous. Qu'il soit au milieu de nous aussi ici, dans cette assemblée, que lui-même conduise les réunions, que lui-même nous conduise dans nos cantiques, que lui-même nous conduise dans notre adoration, cette adoration en esprit, en vérité. Nous aspirons à cela. Sois béni, bénis tes enfants ici ce soir. Quand tu les béniras, ne m'oublie pas, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Accompagne chacun de nous dans sa demeure, dans sa maison, que tu bénisses ceux qui n'ont pas pu venir, qui ont besoin de guérison. Qu'on leur parle encore plus de la guérison divine. Dieu, qu'ils entendent cela, qu'ils la demandent, qu'ils la réclament, car aujourd'hui, tu guéris encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te le demandons. Amen. Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix.